Fin 2025 est sorti aux éditions Hachette le guide du routard sur les sentiers de la liberté, sur les pas des héros de la Seconde Guerre mondiale. Ce guide propose 12 itinéraires de randonnée pour retracer l'histoire de la résistance et de l'exil. Johan Rumeau, bonjour.
Bonjour.
Alors, vous êtes le président de la Société des études du Comminges et des Pyrénées centrales. Qui est à l'initiative de proposer ces sentiers dans le guide du routard ?
Alors ce guide du routard, c'est d'abord le fruit d'une amitié et d'une rencontre entre les membres de notre association Itinéraire Liberté Pyrénées Europe, puisque c'est aussi à ce titre-là que je suis avec vous aujourd'hui, et Philippe Glohagen, qui est le fondateur du routard et qui avait à cœur de, parce que c'est le dernier routard qu'il a mis en marche avant que la marque routard ne soit vendue à la société Hachette, qu'il avait à cœur donc de réaliser. Ce guide, en fait, il est lié à une démarche de coopération que nous avons mis en œuvre entre les différentes associations qui promeuvent les sentiers de passage et d'évasion à travers les Pyrénées pendant la Seconde Guerre mondiale, tout le long de la chaîne des Pyrénées, et différents partenaires européens, dans le cadre d'une candidature auprès du Conseil de l'Europe pour une certification au titre des itinéraires culturels du Conseil de l'Europe. C'est un dossier que nous avons engagé il y a maintenant presque 4 ans, en 2022. Notre association Itinéraire Liberté Pyrénées Europe a été créée en 2022. Et nous avons présenté une première candidature qui nous a amené à renforcer notre dossier. Et nous avons représenté la candidature en 2025, c'était à Luxembourg. Et la certification nous a été remise au mois d'octobre à Cappadoce, en Turquie, lors du 14e forum des itinéraires culturels du Conseil de l'Europe. Donc c'est une histoire pyrénéenne, ce guide, une aventure pyrénéenne, et c'est aussi une aventure européenne.
Alors qui sont les personnes qui ont permis de réaliser ce guide ?
Alors pour l'écriture du guide, en fait, d'abord il faut rendre hommage à celle qui en a eu l'idée et qui en a été la cheville ouvrière, qui est aussi la secrétaire gestionnaire des itinéraires culturels des Chemins de la Liberté. C'est Josette Durieux du Faza, ancienne sénatrice des Hautes-Pyrénées, fille de résistants. Ses parents étaient dans un des réseaux de passage et d'évasion vers l'Espagne, le réseau Bookmaster, et qui a eu l'énergie de fédérer tous les acteurs à travers la chaîne pyrénéenne, mais aussi de trouver des partenaires en Espagne, au Portugal, au Royaume-Uni, en Belgique, en Allemagne, en Roumanie, en Italie, autour de cette histoire commune de l'évasion par les Pyrénées durant la Seconde Guerre mondiale.
Oui, donc c'est plus qu'un travail local, c'est un travail international.
C'est un travail international et c'est un travail de très longue haleine, et ça n'est que le début en fait de cette aventure. La rédaction du guide a permis de faire coopérer des historiens, je pense en particulier à Thomas Ferrer, qui est l'auteur d'un ouvrage sur les évasions à travers les Pyrénées, des représentants d'associations mémorielles, je pense à Jeannie Cam, qui est membre active de la Société des membres de la Légion d'honneur des Hautes-Pyrénées, mais aussi nos amis du réseau Comet au Pays Basque, nos amis autour du colonel Séris des Chemins de la Liberté en Ariège, évidemment, bien sûr, les Chemins de la Liberté par le Comminges et le Val d'Aran de Jacques Simon et Claude Van der Geest en Comminges, puisque nous sommes ici à Radio Présence à Saint-Gaudens, mais également Jean-Pierre Bobo pour les principaux itinéraires dans les Pyrénées orientales. Et à cela, il faut ajouter nos partenaires espagnols, Josep Calvé en Catalogne et d'autres encore sous la responsabilité scientifique de Robert Belot, qui est professeur à l'université de Saint-Étienne, mais également tout le réseau des ONAC, les Offices Nationales des Anciens Combattants, sur l'ensemble de la chaîne des Pyrénées, qui ont contribué. Donc chacun à sa façon, a apporté une pierre à cet ouvrage, une page à ce livre. Un gros travail a été fait sur la cartographie des itinéraires, sur le récit de chacun des 12 itinéraires choisis. Et le routard, lui, à travers la plume de Jean Typhon, qui est reporter pour le routard et pour le Figaro Magazine, a amené toute l'information touristique que nous avons bien sûr complétée avec les offices de tourisme locaux et les comités départementaux du tourisme.
Ah, donc la chaîne des Pyrénées est découpée en plusieurs parties, hein, du Pays Basque à la côte catalane. Pour chaque partie, chaque chapitre, un département, avec combien de sentiers pour chacun d'eux ?
Alors, il y a...
Ça dépend des départements.
Ça dépend des départements. Mmh. Hein, il y en a deux dans les Pyrénées-Atlantiques, au Pays Basque. Il y en a trois dans les Hautes-Pyrénées, deux dans la partie Comminges, mais qui sont un peu à cheval sur les Hautes-Pyrénées. Il y en a un, mais qui a été emprunté de multiples fois à travers, par l'Ariège, à travers le Couserans. Et puis, il y en a trois principaux pour les Pyrénées-Orientales. En fait, l'idée de ces itinéraires, ce n'est pas de retracer tous les itinéraires. Parce que j'ai envie de dire que partout où il y avait un passage, partout où il y avait un col, partout où il y avait une ouverture, il y avait un itinéraire possible. Et il y en a eu une multitude qui ont été utilisés. Ce sont en fait... dans l'autre sens, les chemins de la retirada espagnole, ou les chemins des contrebandiers, ou les chemins des chasseurs, ou même parfois, pour les plus périlleux, des itinéraires qui sont ceux que n'utilisaient ou que n'avaient utilisé que des pyrénéistes, des amoureux de la marche dans les Pyrénées. Et donc nous ne pouvions pas tous les décrire, nous ne pouvions pas tous les retracer. Les 12 qui ont été retenus correspondent en fait à des moments de l'histoire du passage ou à des profils, je dirais, un peu archétypiques du passage. Le passeur, à travers le douanier parent ou l'abbé Ginoux dans les Pyrénées-Orientales, de jeunes évadés comme Cazot ou Cazenave dans les Hautes-Pyrénées, des aviateurs et certains de renom, comme Chuck Yeager, qui est...
Qu'était-il qui,
Chuck Yeager, c'est...
Il y a un récit, hein, d'ailleurs, dans ce guide du routard. Hein, de...
Oui, tout à fait.
Et d'ailleurs, un itinéraire, un sentier porte son nom.
Et il y a un sentier qui porte son nom, un sentier qui passe par la vallée de la Garonne, qui remonte par la Barousse, par le col de Balès, qui ensuite vient traverser le massif du Luchonnet pour arriver dans le Val d'Aran. Et Chuck Yeager a été fait prisonnier à Sorte dans le Payars avant d'être ensuite évacué. Le personnage est intéressant parce que il est de cette trempe des aviateurs qui ont organisé des parachutages ou de matériel ou de personnes en France occupée pour soutenir la résistance. Et lui, son avion a crashé et il avait été récupéré en Gironde, je crois. Donc le personnage en plus est remarquable parce que c'est lui qui par la suite a été le premier à franchir le mur du son. Ça a été un officier américain de très haut vol qui est revenu régulièrement dans les Pyrénées. Jusqu'en 2019, la dernière fois, où il est revenu à Mazères de Nest, où il avait été caché dans la maison des parents de Josette Durieux, la maison de Paul et Marie Dufaza, qui étaient des résistants du réseau Bookmaster, spécialisés dans la prise en charge des résistants et des aviateurs et dans l'organisation de leur fuite à travers les Pyrénées.
Alors, on peut citer les quelques sentiers. Hein, sur la partie pyrénéo-garonnaise, il y a l'itinéraire, donc vous disiez à l'instant, Chuck Yeager.
Bien sûr, il y a aussi l'itinéraire de Paul Mifsud et Josette. Oui. Alors, c'est un itinéraire auquel on est très attaché. D'abord parce que c'est un personnage, c'est un jeune homme, Paul Mifsud, engagé volontaire, qui s'évade dans des conditions très particulières, dans un groupe très nombreux. Ils étaient quasiment une vingtaine. On est en octobre 1943. Les conditions météorologiques sont effroyables. Elles sont bien connues de Claude Van der Geest, qui les a retracées à travers ses recherches. Et cet itinéraire pour le Mifsud, il a été choisi par la communauté de communes pyrénéo-garonnaise pour mettre en place plusieurs outils de médiation à l'égard du public. Alors, il y a d'abord un parcours pédagogique au départ de Marignac, et puis il y a un vrai parcours transfrontalier qui est balisé et qui vient d'être inauguré à l'automne 2025, qui part de Saléchamp, de la gare de Saléchamp, d'où le chef de gare Verdier était un des membres des réseaux de passage et accueillait et déguisait les évadés pour qu'ils puissent franchir les lignes en échappant au contrôle des douaniers allemands. Et donc, on a retracé, la communauté de communes Pyrénées-Garonnaise a retracé ce parcours avec la communauté de communes Nest-Barousse, depuis Saléchamps, via Esténos, Marignac, Sierpe, et ensuite, à travers le massif du Burat, le parcours continue jusqu'à Bausen et côté espagnol, le Val d'Aran. Donc c'est aussi ces itinéraires, et c'est le sens de ce guide du routard, ce sont aussi des itinéraires qui ont vocation aujourd'hui à faire vivre cette histoire à travers la marche. Alors avec différents niveaux de difficultés, il y a des parcours presque comme celui de Marignac, accessible aux personnes à mobilité réduite. Il y en a d'autres qui sont plus sportifs, plus engagés. Je pense à ceux qui traversent l'Ariège, par exemple, où la randonnée monte jusqu'à quasiment 2000 mètres d'altitude et doit être faite dans des conditions de préparation ou avec un guide qui connaît la région.
Expérimenté.
Mais dans tous les cas, les lieux qui sont traversés permettent de renouer avec cette histoire et de la redécouvrir, et de redécouvrir aussi les paysages dans lesquels elle s'inscrit.
Ah. Oui, je voudrais citer aussi ceux des Hautes-Pyrénées, puisqu'il y a une partie de nos auditrices et auditeurs qui nous écoutent en Est-Barousse et en Vallée d'Or et du Louron, l'itinéraire Henri Cazot, l'itinéraire Jean Cazenave et l'itinéraire de 15 des évadés de la prison d'Aïs qui était à Villeneuve-sur-Lot. Hein.
Oui, tout à fait, dans le Lot-et-Garonne, qui était une véritable prison politique. C'est une histoire, là encore, extrêmement révélatrice de ce qu'était la résistance, avec ses différentes composantes politiques qui ont réussi, malgré leurs différences initiales, à s'entendre pour organiser une première tentative d'évasion qui a donné lieu à une violente répression à l'intérieur de la prison, puis une deuxième qui a eu plus de succès. Et parmi ceux qui ont réussi donc à s'évader de la prison d'Aïs en 1944, il y en a 15 qui sont passés par les Pyrénées centrales. Et là encore, ils sont passés par Mazères de Nest, puis ont remonté la vallée de la Nest par Sarancolin pour franchir la frontière au niveau du col du Riou Majou dans la vallée d'Or. Ce sont des histoires humaines extrêmement sensibles, où on voit des personnes qui n'étaient en rien préparées, en fait, à affronter la montagne, pris en charge par les populations locales, souvent de façon discrète, très souvent aussi de façon désintéressée, même si certains passages ont pu être rémunérés, et c'est une réalité de l'histoire de ces événements, mais dans tous les cas, au péril de leur vie, soit qu'il faille affronter les intempéries et les conditions difficiles du passage en montagne, soit qu'il faille affronter aussi ceux qui en assuraient la surveillance pour les forces d'occupation. Et dans tous les cas, une fois arrivés en Espagne, quel que soit l'itinéraire emprunté, eh bien, ces évadés étaient pris en charge par le système répressif espagnol, et donc sont passés par des prisons. D'abord au pied, je dirais, de la frontière, dans les premiers villages au pied des cols, puis ensuite regroupés soit à Huesca, soit à Saragosse, soit à Jaca.
Les grandes villes côté espagnol.
Soit Lérida, soit Barcelone. Certains sont passés par le camp de Miranda del Ebro, plus à l'ouest, et avant d'être ensuite pris en charge, soit par les réseaux de résistance à nouveau, soit par la Croix-Rouge internationale, et exfiltré par le Portugal ou par l'Afrique du Nord en direction de Londres, voire des États-Unis, voire pour ceux qui étaient juifs, en direction de l'Afrique du Nord ou des États-Unis aussi. C'est une histoire qui est très méconnue, en fait. C'est une histoire qui est très méconnue, on s'en rend compte. On a entretenu la mémoire de la résistance. On a mis très longtemps en France avant de reconnaître et de raviver la mémoire des victimes du génocide, mais la mémoire de ces évadés, elle est restée longtemps discrète. Et là où c'est le plus surprenant, je dirais, que c'est dans les familles de passeurs où ces choses-là ne se sont pas dites et où on se rend compte en discutant aujourd'hui avec ceux qui sont les enfants, ou maintenant même les petits-enfants des passeurs, qu'ils redécouvrent à la faveur du travail des historiens et du travail de mémoire qui peut être fait, notamment par nos associations, l'héroïsme des actes de, leurs aînés.
Et pourquoi ?
Probablement parce que pour certains, il y avait le sentiment que c'était un devoir et que ça ne justifiait pas d'être raconté. Pour beaucoup, parce que finalement, cette période extrêmement troublée, extrêmement tranchée de la Seconde Guerre mondiale n'a pas été évoquée dans les familles avec, je dirais, avec beaucoup de détails. On savait que. Mais on ne savait pas comment, on ne savait pas où, on ne savait pas qui, on ne savait pas pourquoi. Et on a pu, à l'occasion de ce travail, et du travail mené notamment par l'association des Chemins de la Liberté par le Comminges et le Val d'Aran, on a pu assister à des retrouvailles par génération interposée entre des fils de passeurs ou des neveux de passeurs qui ont, par l'échange croisé, redécouvert l'histoire de leurs parents.
Alors, 12 itinéraires ont été recensés pour le guide du routard. Y en avait-il d'autres qui n'ont pas été répertoriés ?
Oui, comme je le disais tout à l'heure, en fait, un grand nombre de lieux de passage n'ont pas été évoqués. Alors, on pourrait renvoyer à la thèse d'Emilienne Echen, qui a consacré une thèse de doctorat à la fin des années 70 et qui avait fait un gros travail de repérage sur le terrain et de rencontre avec les passeurs. Il y en avait beaucoup plus encore en vie à ce moment-là. Le choix que nous avons fait, c'est un choix démonstratif. Il y a le parcours de Walter Benjamin, l'intellectuel. Il y a Joseph Druon et Kessel, qui sont les auteurs du champ des partisans, ou encore le réseau Comet au Pays Basque. Choisir, c'est renoncer d'une certaine façon. Donc nous avons renoncé à en évoquer certains, mais ceux que nous avons proposés sont assez emblématiques et significatifs, et ils sont aussi accessibles à partir de lieux qui peuvent être des lieux d'explication, d'interprétation. Je pense en particulier au musée des Chemins de la Liberté de Saint-Girons, dans l'ancienne gare, qui permet de découvrir le contexte, ou encore au camp de Gurs ou au camp de Rivesaltes dans les Pyrénées-Orientales, Gurs dans Béarn, Rivesaltes dans les Pyrénées-Orientales, qui sont des lieux comme le musée de la Résistance à Toulouse, où l'on peut découvrir cette histoire avant d'aller sur les chemins. Vous me posez la question de combien d'évadés, les historiens ne sont pas tous d'accord. Si l'on prend en compte tous ceux qui ont pu franchir la frontière grâce au passeport et au sauf-conduit signé par le consul du Portugal à Bordeaux, de Sousa Mendes, on arrive à presque 50 000 personnes, plus de 50 000 personnes en fait, qui ont franchi les Pyrénées à cette occasion.
Alors pour la plupart de ces itinéraires, ils passaient par où ? Ils partaient d'où à où ? Est-ce que ce sont des villes sur le Piémont, des Pyrénées, long de la voie de chemin de fer Toulouse-Bayonne ?
Oui, c'est ça. C'est-à-dire que il fallait d'abord approcher des Pyrénées pour des gens qui venaient de loin. Je pense en particulier aux Juifs qui franchissent la frontière. Ils viennent de toute l'Europe et ils viennent de toute façon du nord de la France. Donc ils passent par Toulouse, ils passent par Bordeaux. Des villes comme Lourdes, parce que ce sont déjà des villes hôtelières, et les grandes villes thermales jouent un rôle aussi de lieu de regroupement avant le départ. Le réseau des petites gares de Piémont permettent d'approcher au plus près de la zone qui était la zone interdite, puisque la frontière elle-même était zone interdite par les forces d'occupation, et les douaniers allemands étaient présents sur le territoire. Mais ce qu'on constate souvent, c'est ça, c'est qu'il y a une approche par le train pour certains, puis une prise en charge par les réseaux de passeurs. Il y a un personnage très connu à Toulouse qui est Marie-Louise Dissard, alias Françoise, qui a organisé elle aussi, à travers son réseau de résistance, le passage de milliers d'évadés à travers les Pyrénées, principalement par l'Ariège, mais aussi par les Pyrénées centrales.
Alors j'appelle la sortie de ce guide du routard fin 2025, Pyrénées, les sentiers de la liberté sur les pas des héros de la Seconde Guerre mondiale, sorti aux éditions Hachette. Johan Rumeau, merci.
Merci à vous.
Je rappelle que vous êtes président de la Société des études du Comminges et des Pyrénées centrales.